Et la suite, c'est le journal d'Haïti et des Amériques. Avec vous, Pauline Glaise, bonjour.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous et bienvenue. Dans cette édition du 15 mai, nous consacrerons un large dossier à la politique des États-Unis au Moyen-Orient. Dans sa revue de presse, Marie Normand nous détaillera les réactions au lendemain de l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem. Réaction aussi à la vague de violences meurtrières à la frontière entre Israël et la bande de Gaza. Toujours à ce sujet, une interview à suivre d'Anthony Blinken, secrétaire d'État adjoint sous l'ère Obama. Il nous dira quel regard il porte sur la politique étrangère de Donald Trump. Au sommet également, la chute du peso argentin, moins 6% hier. Et comme tous les mardis, Godson Pierre reviendra sur l'actualité haïtienne avec notamment les inquiétudes du président du Sénat quant au risque d'instabilité dans le pays. À la fin de la semaine, cela fera un mois que le mouvement de contestation a commencé au Nicaragua. Un mois au cours duquel plus de 50 personnes ont trouvé la mort dans des manifestations violemment réprimées par le gouvernement. Mais un espoir de sortie de crise pointe. La conférence épiscopale du Nicaragua a annoncé l'ouverture demain d'un dialogue national. Les précisions de notre correspondant régional Patrick Jeunebœuf.
Après plusieurs semaines d'incertitude sur sa tenue, le dialogue national va enfin pouvoir commencer. C'est donc une petite lueur d'espoir pour le Nicaragua, même si les circonstances ne sont pas idéales, au dire même du cardinal Leopoldo Brenes, qui a annoncé l'ouverture des discussions. Celui qui est aussi l'archevêque de Managua a précisé quels étaient les objectifs de cette rencontre entre la société civile, le secteur privé, les étudiants et le gouvernement.
Esperamos que el diálogo...
Nous espérons que le dialogue aborde structurellement le thème des institutions dans le but de trouver un chemin vers leur démocratisation. Et nous espérons parvenir à des accords importants qui se traduisent par des décisions concrètes.
Ce dialogue a finalement été rendu possible grâce à l'acceptation du gouvernement, ce lundi, d'ouvrir les portes du pays à la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Celle-ci pourra donc venir enquêter sur les circonstances de la mort de plus de 60 manifestants. C'était l'une des conditions posées par les évêques à l'ouverture du dialogue. L'autre condition était la fin de la répression, mais elle est loin d'être remplie puisque de violents affrontements ont encore eu lieu lundi matin dans l'intérieur du pays. Patrick Jeunebœuf, Mexico RFI.
La revue de presse des Amériques avec Marie Normand. Aujourd'hui, bonjour.
Bonjour.
On part d'abord en Argentine. Le pays s'inquiète de la chute de sa monnaie. Hier, le peso a reculé de 6,23% à la fermeture des marchés.
Et le titre en une de Paris Nado, c'est Le Cri. Le Cri, donc, illustré cet article d'un dollar où le chef d'œuvre d'Edvard Munch, Le Cri, remplace le visage de George Washington. Un cri face à cette dépréciation du peso qui a quasiment perdu 20% de sa valeur en seulement un mois et demi. Le Wall Street Journal accuse le chef de l'État argentin de ne pas faire le bon diagnostic en pointant du doigt seulement la hausse des prix du pétrole et d'autres variables que son pays ne contrôle pas. Pour le journal américain, la culture populiste profondément enracinée en Argentine est le péché originel et la réticence de Macri à y faire face menace son succès.
Et pour la Nation, Marie, le président a fait de mauvais choix lorsqu'il a composé son gouvernement, en fait.
Oui, l'atomisation de la gestion économique, sa dispersion en plusieurs ministères finit par exposer dangereusement la figure du président, selon ce journal. Le désastre économique hérité du kirchnérisme ne pouvait pas être réglé en convoquant différents spécialistes, même renommés, pour traiter chacun un seul problème. Gouverner exige aussi un minimum de coordination.
Et puisqu'on parle du kirchnérisme, sachez que l'ancienne présidente Cristina Kirchner et ses deux enfants ont été mis en examen dans une affaire de blanchiment d'argent. Voilà pour l'Argentine, mais la presse du continent américain revient aussi longuement ce mardi sur le bain de sang d'hier au Proche-Orient. Alors que la nouvelle ambassade américaine était inaugurée à Jérusalem, 60 Palestiniens ont été tués hier par l'armée israélienne à la frontière avec la bande de Gaza.
Oui, un bain de sang inévitable, juge le Los Angeles Times, tant la situation à Gaza est devenue intenable. Le New York Times choisit de placer en une aujourd'hui de son site internet deux photos côte à côte, l'une prise à Gaza, l'autre à Jérusalem, l'une d'affrontements entre Palestiniens et Israéliens, l'autre affichant le visage souriant d'Ivanka Trump qui a inauguré donc cette ambassade à Jérusalem. Deux scènes radicalement différentes à 40 miles de distance, une soixantaine de kilomètres. Le contraste entre entre l'exultation à Jérusalem et l'agonie des Palestiniens à Gaza n'aurait pu être plus brutal ou plus effrayant pour ceux qui continuent d'espérer une paix juste et durable. Contraste aussi relevé par le Globe and Mail qui parle d'une combinaison de tragédie et de farce, d'un spectacle d'horreur. La décision irréfléchie de Trump a non seulement fourni une autre cause de violence tragique dans la région, mais elle a aussi fait obstacle à un véritable processus de paix. C'est ce que juge The Star, un autre journal canadien.
Et la presse, Marie, critique aussi la cérémonie d'inauguration de l'ambassade elle-même.
Oui, le New York Times évoque la présence de deux personnages singuliers. Robert Jeffress, d'abord un pasteur de Dallas qui a dénigré les juifs, les mormons, les musulmans. Et puis celle du révérend John Hagee, un évangéliste star de la télé américaine qui a prétendu, je cite, qu'Hitler descendait de juifs métis et faisait partie du plan de Dieu pour le retour des juifs en Israël. Le fait que ces deux hommes aient tenu des rôles importants dans la cérémonie d'hier devrait embarrasser tous ceux qui y ont participé, juge le journal. Pour le Washington Times, en revanche, cette inauguration a été un moment de gratitude, de célébration. Le quotidien conservateur, d'ailleurs, ne comprend pas l'attitude des pays européens qui s'acharnent à conserver leur ambassade à Tel Aviv. Il suggère à la France de déplacer son ambassade américaine de Washington à Front-Royal, en Virginie, pour bien montrer qu'une ambassade n'a pas besoin d'être dans la capitale, juste suffisamment près.
Des critiques et des interrogations aussi dans la presse latino-américaine.
Oui, des nations qui se retrouvent au milieu d'un affrontement diplomatique intense entre Israël et Palestine, écrit La Prensa au Honduras. Le président palestinien vient d'achever une visite au Venezuela, à Cuba et au Chili. Benjamin Netanyahou avait lui aussi offert en septembre à l'Amérique latine la première visite d'un chef de gouvernement israélien. Pour l'instant, rappelle le journal, seuls deux pays ont décidé de suivre Washington. Le Guatemala va transférer son ambassade mercredi, le Paraguay d'ici la fin du mois. Le Honduras, lui, n'a pas encore pris de décision, mais la Prensa rappelle que le pays a voté comme États-Unis et Israël le 21 décembre à l'ONU.
Merci Marie. Et le Conseil de sécurité de l'ONU dont vous parliez à l'instant, doit se réunir aujourd'hui pour évoquer les violences à la frontière de la bande de Gaza. Une discussion qui promet d'être agitée. Selon des sources diplomatiques, les États-Unis ont bloqué l'adoption d'un communiqué demandant une enquête indépendante et condamnant les tirs. D'ailleurs, ce n'est pas l'armée israélienne que le porte-parole de la Maison-Blanche, Raj Shah, blâme.
Nous pensons que le Hamas est responsable de ces morts tragiques. C'est leur exploitation cynique de la situation qui conduit à ces morts. Nous voulons qu'ils cessent. C'est une tentative de propagande. Le gouvernement israélien essaie depuis des semaines de maîtriser la situation sans violence. Le plan de paix sera dévoilé au moment opportun. Il sera évalué selon ses propres résultats. Mais nous ne pensons pas que les événements de la journée, que cela soit à l'ambassade de Jérusalem ou la tragédie dans le sud d'Israël, nous ne pensons pas qu'ils auront un impact sur le plan de paix.
Si Raj Shah parle du sud d'Israël, la bande de Gaza est un territoire bel et bien palestinien. Le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem, la reconnaissance de la ville sainte par Donald Trump comme capitale d'Israël, rompt avec des décennies de diplomatie américaine en tout cas. Alors qu'en pensent les responsables de l'administration précédente? Muriel Paradon, interrogé sur le sujet et plus globalement sur la politique étrangère de Donald Trump, Anthony Blinken, il était secrétaire d'État adjoint sous la présidence de Barack Obama. On l'écoute.
C'est sûr que ça rend la paix au Moyen-Orient encore plus difficile. En même temps, pour nous, le capital d'Israël, c'est Jérusalem, ça sera toujours à Jérusalem, mais c'était toujours également une question pour les deux parties de résoudre dans le contexte d'un processus de paix. Alors maintenant que la décision est prise un peu à l'unilatéral, ça rend la tâche plus difficile. Le problème, c'est que d'un côté, il y a une reconnaissance d'une réalité, c'est que le capital d'Israël est à Jérusalem, mais il y a une manque de reconnaissance d'une autre réalité, c'est que pour un processus de paix de pouvoir prendre vie, il aurait fallu agir autrement, et il faut également reconnaître les aspirations palestiniennes à Jérusalem.
Qui revendiquent Jérusalem-Est comme leur capitale.
Voilà, exactement.
Quelles peuvent être les conséquences de cette décision? On le voit, il y a des violences à Gaza, mais au-delà, tout le monde musulman et arabe conteste cette décision.
Oui, il y a une contestation évidemment sur le terrain. Il y aura sans doute des manifestations dans divers pays, mais pour vous dire la vérité, je pense que ça sera digéré. Mais La vraie conséquence, c'est justement que s'il y a un processus de paix, et il n'y en a pas pour l'instant, ça rend la tâche plus difficile. Et je crois que ça enracine l'idée qu'on est très très loin d'une solution avec deux États. Et c'est ça qui est grave.
Autre dossier sur lequel Donald Trump s'est prononcé de manière unilatérale, c'est la sortie de l'accord nucléaire avec les Iraniens. Quel est votre regard là-dessus ?
Je regrette énormément cette décision qui n'a franchement pas de sens. L'Iran, quoi qu'on en dise sur ses actions à travers le Moyen-Orient, respectait l'accord. Nos propres services de renseignement le confirmaient. Donc maintenant, nous sommes dans une situation où nous appliquons des sanctions contre l'Iran pour quelque chose qu'il ne fait pas, que l'Iran ne fait pas. Et ça nous met en conflit soit avec l'Iran, soit avec nos alliés les plus proches en Europe. Soit avec l'Iran parce que s'ils remettent en marche leur programme nucléaire, il y aura un jour ou l'autre une confrontation. Par contre, s'ils continuent à affirmer l'accord avec l'Europe, nous serons obligés de mettre des sanctions sur les sociétés européennes pour les convaincre de ne pas faire commerce avec l'Iran. De deux façons, nous perdons.
En même temps que le retrait de l'accord du nucléaire, Donald Trump, dans son intervention, a parlé de la Corée du Nord. Oui. Il va y avoir cette rencontre historique avec le leader nord-coréen. Est-ce que sur ce dossier, il peut réussir là où, sur l'Iran, il a donné son veto, entre guillemets ?
Premièrement, il y a une ironie énorme, c'est qu'en sortant de l'accord avec l'Iran, il rend la tâche avec la Corée du Nord plus difficile. Pour deux raisons. Premièrement, quand Kim Jong-un, le leader de la Corée du Nord, regarde ce qui s'est passé avec l'Iran, il doit se dire, est-ce que je peux faire confiance aux États-Unis ? Et si je signe un accord avec Donald Trump, est-ce qu'il va le déchirer deux semaines après parce qu'il a décidé autrement ? Deuxièmement, en critiquant l'accord avec l'Iran, le président Trump doit trouver quelque chose de mieux avec la Corée du Nord. Et c'est pas du tout évident. Parce que l'Iran, en amont, a détruit presque toute la totalité de son programme nucléaire. L'Iran a accepté un système d'inspection qu'on n'a jamais vu dans les accords sur les armes stratégiques. Est-ce que la Corée du Nord acceptera la même chose ? Si la réponse est non à ces deux questions, l'accord avec la Corée du Nord sera inférieur à l'accord que Trump critique avec l'Iran.
Anthony Blinken, secrétaire d'État adjoint pendant l'administration Obama, il répondait à Muriel Paradon.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
L'actualité haïtienne est notre rendez-vous hebdomadaire avec Godson Pierre, fondateur d'Alter Press. Godson, bonjour.
Bonjour.
À la une aujourd'hui, cette inquiétude, celle de l'instabilité qui guette Haïti.
Mais c'est le cri lancé hier par Joseph Lambert, président du Sénat, dans son discours lors de l'Assemblée nationale de clôture de la première session ordinaire de l'année législative 2018, ouverte en janvier dernier. Il a constaté que le pays n'est pas sorti de la zone d'instabilité et d'incertitude, ces dernières d'ailleurs ayant pris des proportions alarmantes à cause du refus des acteurs politiques de respecter les règles. Il a aussi attiré l'attention sur la nécessité de mettre en place au plus vite le Conseil électoral permanent, alors que les élections législatives de l'année prochaine avancent à grands pas.
Et Godson, cette séance en Assemblée nationale n'est en fait pas allée au-delà du cérémonial.
Certains points controversés n'ont pas fait partie de l'ordre du jour à cause de divergences non aplanies au niveau des deux chambres. Un des points écartés est justement la question de la formation du Conseil électoral permanent. Il était attendu que les parlementaires choisissent leurs trois représentants qui devront constituer ce Conseil, avec six autres membres choisis par les pouvoirs exécutifs et judiciaires.
Et sur le plan social, Godson, des appels à la mobilisation ont été lancés contre la hausse prévue des coûts de l'énergie.
Des organisations sociales et étudiantes annoncent pour le 18 mai une manifestation contre le pouvoir en place à l'occasion de la fête du drapeau et de l'université en Haïti. En conférence de presse, les dirigeants d'un mouvement appelé 22 janvier indiquent que la manifestation entend dénoncer les différents problèmes qui rongent la société haïtienne, tels que l'extrême pauvreté, la question du salaire minimum, la corruption et l'insécurité, entre autres. Une hausse des prix des produits pétroliers a été annoncée pour le mois de juin prochain par le ministre de l'économie l'économie et des finances, les associations qualifient les autorités d'irresponsables pour s'être entendues avec le FMI pour relever les prix de l'essence et de l'électricité dans les semaines à venir. Des organisations ouvrières annoncent également des mouvements pour le 18 mai afin de réclamer des mesures capables de produire des changements au niveau des conditions de travail et d'existence des travailleurs. C'est ce qu'a fait savoir à la presse Dominique Saint-Éloi, coordonnateur du Centre national des ouvriers haïtiens.
Colère également de l'Association nationale des infirmières d'Haïti. Elle s'inquiète, Gutson, de l'inadéquation accrue du système de santé.
Les conditions ne sont pas réunies pour pouvoir porter secours aux malades, même dans les hôpitaux de la capitale, Port-au-Prince, voire dans les zones reculées du pays. C'est ce que signale Lucie Charles, présidente de l'association. Elle critique également le faible budget alloué au domaine de la santé, qui serait insuffisant, selon elle, pour créer de meilleures conditions de travail pour les personnels de santé. La santé représente 4,3% dans le budget 2017-2018. Cette part devrait augmenter à 16% pour être au même niveau que celle des pays à faible revenu, selon les experts.
Merci Godson Pierre et à la semaine prochaine.
Le journal de l'Outre-mer.
Il est présenté par la première, par Edwige Saint-Thomas. Bonjour.
Bonjour Pauline, bonjour à tous.
Edwige, les familles des victimes du crash de l'avion de la West Caribbean en 2005 attendent beaucoup du nouveau procès qui s'ouvre aujourd'hui en Martinique.
Oui, leur avion qui effectuait le trajet Panama-Fort-de-France s'est écrasé en pleine nuit à 550 km à l'ouest de Caracas. À compter d'aujourd'hui, pour deux jours, les familles du crash aérien du 16 août 2005 vont demander à la justice de revenir sur l'enquête concernant ce crash. La chambre d'instruction de la cour d'appel va donc examiner ce dossier alors qu'une ordonnance de non-lieu avait été rendue en juin 2015. Corinne Boulogne-Yangting, une des avocates de l'association des familles de victimes, estime que l'enquête révèle que plusieurs acteurs de ce dossier ont commis de graves erreurs. Sans être jamais inquiétée, elle répond à Pierre-Yves Honoré de Martinique la Première.
Nous avons dans un dossier pénal des pilotes qui ont été induits en erreur. Pourtant, ceux qui les ont induits en erreur n'ont jamais été mis en cause. Notamment une société d'assistance qui a communiqué aux pilotes un plan de masse erroné. Et cette société d'assistance n'a toujours pas été mise en cause. Je crois que, encore une fois, on se moque des Martiniquais. Rien n'est dit pour que la vérité émerge de ce dossier.
La situation financière de l'hôpital de Martinique est toujours au centre des préoccupations. Une délégation du collectif Choum Douvan Douvan rencontre la ministre de la Santé demain à Paris. Il sera question du déficit du centre hospitalier de Martinique, 260 millions d'euros. Bruno Charles Achille, cadre de santé et membre du collectif Choum Douvan Douvan, parle de santé à deux vitesses.
On n'a pas les mêmes chances de soins qu'à l'Hexagone. Nous avons des collègues comme des praticiens qui font le choix entre deux patients. C'est ça la réalité. Je parlerai à mon nom propre là. Je pense que l'État français aujourd'hui s'en fout des Martiniquais. Et je dirais et des DOM et des TOM. Ils s'en foutent. Et ici, on fait des choix. Il n'y a pas de drap. Dernièrement, la buanderie était en panne. On fait un choix de savoir à qui on donne le drap. Est-ce que c'est au plus jeune ou au plus uni? C'est ça, les collègues vivent tous les jours. C'est ça, la réalité.
Bruno Charles répondait à Pedro Monerville de Martinique la Première. Et puis en Guadeloupe, un détenu du centre pénitentiaire de Fonsaraï à Bemao a été filmé en train d'être fouetté par ses co-détenus, une sanction pour ne pas avoir accompli sa part de tâches ménagères. Selon maître Marie-Christine Jimmy, avocate de la victime, ces images diffusées sur les réseaux sociaux seraient une manière d'exercer une pression sur les familles. Elle répond à Franck Aristide de Guadeloupe la Première.
Sa famille a été appelée à de nombreuses reprises pour lui demander de l'argent. Donc la famille a été rackettée. Les envois n'ayant pas été faits, les détenus qui s'en prennent à mon client ont envoyé des vidéos où il le violentait et il faisait encore d'autres sévices. Donc ce sont des choses qui sont absolument inacceptables. Nous sommes habitués à une certaine violence à la prison de Bemao, mais on ne peut plus accepter ça. Il ne faut pas prendre ce type d'habitude, parce que l'État doit garantir la sécurité des personnes détenues.
La victime de ces agressions a depuis été déplacée. C'est la fin de cette édition. Excellente journée, à demain.
Merci Edwige Saint-Thomas. C'est la fin de ce journal d'Haïti et des Amériques. Pauline Leduc était aux manettes. Merci à tous pour votre fidélité. Et n'oubliez pas, vous nous retrouvez sur notre site internet www.rfi.fr et sur les réseaux sociaux.